VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 13 septembre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Cameroun, le SDF exige une amnistie des détenus politiques et un cessez-le-feu avant de participer au dialogue national. La famille de Robert Mugabe accepte finalement que l'ex-président zimbabwéen soit enterré au monument des héros à Harare. Fin de la campagne électorale en Tunisie où 26 candidats sont en lice pour le premier tour dimanche. 225 millions d'enfants de 6 à 17 ans ne seront pas scolarisés en 2030 dans le monde si des mesures urgentes ne sont pas prises, alerte l'UNESCO. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Cameroun, l'opposition réclame une amnistie générale parmi les conditions au grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya pour mettre fin au conflit dans les régions anglophones. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le Social Democratic Front, partisan d'un retour au fédéralisme, a demandé au pouvoir de déclarer un cessez-le-feu dans les deux régions anglophones et de garantir une amnistie générale pour tous les acteurs de la crise anglophone. Nous avons parlé de notre vision du dialogue, à eux de réagir, à moins qu'ils ne veuillent un monologue, a déclaré Joshua Oshi, vice-président du SDF. Son parti demande aussi que le dialogue qui doit se tenir fin septembre soit présidé par une personnalité neutre et non par le Premier ministre comme annoncé par le président Biya. Le SDF voudrait que les discussions sur la forme de l'État soient un élément central du dialogue en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution. Après avoir fait preuve d'intransigeance, le président Biya a convoqué mardi un grand dialogue national. Si quelques figures anglophones ont salué cette initiative, Julius Aluk Tabé, l'un des leaders séparatistes qui purge une peine de prison à perpétuité, a déclaré par son avocat que ce dialogue était un non-événement.
En République démocratique du Congo, les anciens réfugiés congolais revenus d'Angola ont manifesté aujourd'hui leur désespoir en amenant le corps d'un homme mort de faim, selon eux, devant le siège du gouvernorat à Kananga. Une centaine de personnes rapatriées d'Angola ont pris d'assaut l'entrée des bureaux du gouverneur de la province du Kasaï central. Ils accusent Martin Kabuya de les avoir poussés à revenir dans leur pays en leur promettant de meilleures conditions de vie. La police est intervenue sans violence. Le gouvernement malien a pris de nouveaux engagements pour mettre fin à la contestation contre le mauvais état des routes et l'insécurité dans plusieurs villes. Le gouvernement s'est engagé à commencer dans 6 mois au plus tard les travaux sur la route Gao-Savaré. Il prend aussi l'engagement d'escorter dès lundi les bus empruntant cette route. En contrepartie, les protestataires promettent de lever immédiatement toutes les restrictions sur les routes et à Gao. Des engagements analogues ont été pris auparavant à Tombouctou et Kaï dans l'ouest du pays. Deux véhicules de la Croix-Rouge ont été volés mercredi par des hommes armés dans la région de Tillaberi, dans l'ouest du Niger, a annoncé le CICR, assurant toutefois que leurs occupants étaient rentrés sains et saufs chez eux. Le braquage a eu lieu vers Tongo-Tongo, une zone frontalière du Mali où 28 soldats avaient été tués en mai dernier. 4 soldats américains et 5 militaires nigériens avaient perdu la vie dans une attaque en 2017. En Zambie, le président Edgar Lungu veut réformer la constitution. L'opposition et la société civile dénoncent sa dérive autoritaire. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Devant le Parlement zambien, le président Edgar Lungu a confirmé que le projet de loi déposé par son gouvernement sera examiné pendant la session parlementaire qui s'est ouverte aujourd'hui. « Nous avons bravé la tempête pour préparer cette constitution ». Soutenez la procédure, a lancé le chef de l'État aux députés. Le projet de loi renforce, entre autres, les pouvoirs du chef de l'État en matière de nomination des juges et des ministres et confie au seul gouvernement la charge du contrôle de la dette. L'opposition et la société civile ont dénoncé ce projet. Depuis sa réélection en 2016, le président Lungu est accusé par ses adversaires de dérive autoritaire et de corruption. Il a été l'objet de vives critiques l'an dernier lorsqu'il a jeté en prison Akiande Ichilema, son principal rival. Ce texte doit être retiré immédiatement, avait récemment déclaré M. Ichilema, ajoutant qu'il a pour seul objectif de donner plus de pouvoir à Lungu. Des élections générales sont prévues en Zambie en 2021.
Les proches de Robert Mugabe ont finalement accepté que l'ex-président du Zimbabwe soit enterré au monument dédié aux héros du pays à Harare, à l'issue des tractations avec le gouvernement. Jacques Aristide.
Le lieu de l'inhumation de Robert Mugabe a fait l'objet d'un vif débat entre sa famille et les autorités. Hier, Léo Mugabe avait annoncé que son oncle serait enterré dans son village, conformément aux vœux d'une partie de ses proches et des chefs traditionnels. 24 heures plus tard, il a fait volte-face et a indiqué que Robert Mugabe serait inhumé au champ des héros, le panthéon local, ainsi que le réclamait le gouvernement. La date de l'enterrement, initialement prévu ce dimanche, reste encore à déterminer. Depuis la chute de Robert Mugabe, les relations de l'ex-président et de sa famille avec son successeur Emmerson Mnangagwa, qu'il a publiquement qualifié de traître, ont été mauvaises. Robert Mugabe s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 95 ans à Singapour. Sa dépouille a été rapatriée il y a 2 jours à Harare pour une série d'hommages, dont des funérailles nationales prévues demain dans la capitale en présence de plusieurs chefs d'État africains.
L'ancien chef de la police ougandaise, Kale Kayihura, a été sanctionné par le Trésor américain pour son implication dans des violations des droits humains et de la corruption. Ses éventuels avoirs sur le territoire américain sont gelés avec une interdiction de visa, précise le département du Trésor. Ce général a été limogé par le président Yoweri Museveni il y a plus d'un an, puis inculpé par un tribunal militaire à Kampala pour avoir armé un groupe et permis l'enlèvement de réfugiés. L'un des favoris à l'élection présidentielle de dimanche en Tunisie, Nabil Karoui, reste en prison après une décision de justice, a annoncé son parti Kalb Tounes. La Cour de cassation s'est déclarée incompétente et par conséquent, elle a refusé le recours contre le mandat de dépôt à son encontre, a indiqué le parti dans un communiqué. Monsieur Karoui est en détention provisoire depuis le 23 août pour blanchiment d'argent. Nous reviendrons sur les élections en Tunisie dans la rubrique des dossiers du jour.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Israéliens se rendent aux urnes le 17 septembre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou se présente une nouvelle fois dans ses législatives anticipées. Affaibli par des affaires de corruption, il entend se maintenir au pouvoir. Et Kiabadou nous en dit plus.
Le scrutin du 17 septembre, le deuxième en moins de 6 mois après l'échec du Premier ministre à former un gouvernement de coalition, s'annonce serré. La campagne est marquée par la concentration des partis en plusieurs grandes coalitions et alliances politiques avec un duel entre les deux principales formations, le nouvellement créé Parti Bleu et Blanc de Benny Gantz et le Likoud du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou. Il est au pouvoir depuis 2009 et cherche à être reconduit. Monsieur Netanyahou est dans le collimateur de la justice pour corruption, fraude et abus de confiance dans des affaires de dons reçus de la part de milliardaires, d'échanges de bons procédés avec des patrons d'entreprises et de tentatives de collusion avec la presse. Monsieur Netanyahou doit être auditionné le mois prochain par la justice. Il dénonce une chasse aux sorcières et multiplie les déclarations fortes pour mobiliser son électorat.
Washington a annoncé des sanctions financières contre 3 entités nord-coréennes accusées de cyberattaques qui avaient atteint des infrastructures comme des hôpitaux britanniques et la Banque centrale du Bangladesh. Les piratages étaient voués à soutenir les programmes d'armement et de missiles illégaux selon la sous-secrétaire au Trésor en charge de la lutte contre le financement du terrorisme, Sigal Mandelker. 225 millions d'enfants de 6 à 17 ans ne seront pas scolarisés en 2030 dans le monde si des mesures urgentes ne sont pas prises, avertit l'UNESCO. Le taux de scolarisation stagne depuis 10 ans après avoir progressé dans les années 2000. Un enfant sur 6 restera non scolarisé et 6 sur 10 seulement achèveront l'enseignement secondaire selon les statistiques de l'agence onusienne. Le taux de jeunes non scolarisés est de 6% dans les pays développés et va jusqu'à 60% dans les pays à faible revenu, les filles continuant de faire face aux plus gros obstacles, souligne l'UNESCO. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, l'actualité économique en Afrique avec Nani Talani.
La Zambie a abaissé à 2% au lieu de 4% ses prévisions de croissance pour 2019 en raison des conditions météorologiques défavorables qui ont affecté la production agricole et la production d'électricité dans les centrales hydroélectriques. Le maïs, par exemple, devrait chuter de 16% cette année par rapport à l'an dernier pour atteindre environ 2 millions de tonnes. La Zambie fait également face à un niveau d'endettement élevé et une réduction des réserves en devises. En Tanzanie, la Banque mondiale a approuvé un prêt de 450 millions de dollars pour lutter contre la pauvreté qui touche 5 millions de personnes. Ce financement permettra également d'améliorer la participation des Tanzaniens aux études secondaires. La banque lève ainsi l'embargo sur l'aide qu'elle avait imposée à ce pays à cause de la politique gouvernementale. Celle-ci incluait l'adoption d'une loi expulsant des filles enceintes des écoles publiques. Pour terminer, le chiffre d'affaires d'Ethiopian Airlines a augmenté de 17% durant l'exercice 2018-2019. Le nombre de passagers a connu une hausse de 14%. Ethiopian Airlines devrait recevoir 25 avions de plus cette année, portant sa flotte à 144 avions.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Didier Drogba veut présider la Fédération ivoirienne de football.
Oui, le mois dernier, Didier Drogba avait déjà fait part de son intérêt pour la présidence de la FIFA. Les choses se sont beaucoup plus précisées hier lors d'une rencontre avec des hommes d'affaires à Abidjan, Bagassi Koura.
Tout est parti d'une simple question sur une probable future carrière d'entraîneur. Didier Drogba a confié que son ancien club de Chelsea lui avait proposé de revenir comme coach des Blues, une offre qu'il a déclinée car voyant plus grand.
Et ma vision est plus grande. Le simple rôle entre guillemets d'entraîneur, un entraîneur, a un impact sur un club, sur les supporters, sur une équipe. Moi, l'impact que je veux avoir, c'est sur une nation.
Le foot ivoirien est dans l'impasse depuis le sacre à la CAN en 2015. Les éléphants ont été éliminés à l'édition 2019 dès les quarts de finale par l'Algérie. Ils ont été sortis dès le premier tour en 2017 et ne sont pas parvenus à se qualifier pour le Mondial 2018. Après avoir participé aux trois précédentes éditions, Didier Drogba dit vouloir redynamiser le foot ivoirien.
On peut apporter quelque chose en termes d'infrastructure, redynamiser le football, intéresser le public, parce que c'est aussi ça qui fait la force d'un championnat, et être compétitif, encore plus compétitif sur la scène internationale.
L'élection à la présidence de la FIFA est prévue en fin d'année. Augustin Sidi Diallo, en poste depuis 2011, en est à son dernier mandat. Retraité des pelouses depuis fin 2018, Didier Drogba est devenu en juillet collaborateur du président de la CAF, Ahmad Ahmad, questionné sur une potentielle ambition politique à l'instar de l'ex-footballeur libérien George Weah, devenu président de son pays. Drogba a été clair, répondant que cela ne fait pas partie de ses plans actuels, ajoutant qu'on n'a pas besoin d'être chef d'État pour aider au développement de son pays.
La Ligue africaine des champions entame sa phase décisive ce week-end.
Cette phase va déterminer les 16 qualifiés pour les poules de la compétition. 8 matchs sont à l'affiche ce samedi, dont les plus attrayants, Young Africans Esco United, Génération Foot du Sénégal contre Zamalek et la JS Kabylie contre Oroya. Dimanche, on aura entre autres opposition Al Nassr de la Libye, Raja de Casablanca, ASK du Togo, AS Vita Club de la RDC ou encore Ashanti Kotoko du Ghana contre Étoile du Sahel. Les surprenants Mauritaniens de Nouadhibou feront face au Wydad de Casablanca. Elect Sport du Tchad défiera le champion en titre l'Espérance de Tunis. Fouza Junior de Madagascar jouera contre le tout-puissant Mazembe.
On termine par la finale du mondial de basket. Elle opposera l'Argentine à l'Espagne.
L'Argentine s'est qualifiée pour la troisième finale de son histoire en dominant la France 80 à 66. L'Argentine affrontera dimanche l'Espagne qui a écarté plus tôt l'Australie après deux prolongations 95 à 88. Ce sera la deuxième finale mondiale de la sélection ibérique, 13 ans après son titre de 2006.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez bien Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Cameroun, le principal parti de l'opposition, le Front social-démocrate, le SDF, a exigé une amnistie générale des détenus liés à la crise séparatiste de l'Ouest anglophone et un cessez-le-feu avant de participer au grand dialogue national proposé par le président Paul Biya. Eric Manirakiza a joint à Yaoundé le vice-président du SDF, Joshua Ossi.
Nous avons échangé avec le Premier ministre. Nous avons donné des positions préliminaires concernant cet exercice. Donc ce ne sont pas des exigences, c'est des positions qui sont les nôtres.
Donc vous allez y participer, même si les propositions ne sont pas tenues en compte.
Nous ne sommes pas dans une discussion si on va aller au dialogue ou pas. Si le Premier ministre vous appelle et vous demande comment vous pensez que le dialogue devrait être, vous lui donnez votre position. Voilà, il n'y a aucun format qui a été donné. Nous ne sommes pas en train de dire, ni nous, ni le Premier ministre, sommes en train de dire que la position du gouvernement ou du président de la République est autre que la nôtre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Nous donnons notre position, monsieur.
Concrètement, quelles sont vos propositions préliminaires ?
Les anglophones devraient par conséquent être au centre des discussions et nous avons même demandé une préconférence à cet égard. Nous pensons aussi que ce dialogue national devrait s'attacher aux causes profondes du problème anglophone, devrait idéalement avoir une personnalité indépendante qui préside ces discussions. Et mais qu'aussi que l'armée ne devrait pas faire partie de ce dialogue national inclusif. Voilà les points que nous avons mis sur la table. En plus, nous avons dit qu'il faudrait peut-être un environnement propice pour ce dialogue. À cet égard, nous pensons qu'il faudrait déclarer un cessez-le-feu, il faudrait accorder une amnistie générale à toutes les personnes impliquées dans cette crise pour ainsi permettre à ces personnes de prendre part à ces discussions. Il faudrait aussi une bonne définition du contenu de ce dialogue inclusif. Il ne faudrait pas que les uns et les autres soient surpris ou restent en deçà de leurs attentes une fois qu'on y entre. Donc il faudrait que l'agenda, y compris le contenu de cet agenda, soit connu. Il faudrait que toutes les parties prenantes, ou les principales parties prenantes surtout, qu'elles fassent partie de la phase préparatoire, du processus en lui-même ainsi. Et ça, c'est le plus important de la phase de mise en œuvre.
Vous ne voulez pas non plus que le Premier ministre préside ces assises?
Écoutez, nous disons qu'un dialogue national inclusif devait être présidé par une personnalité indépendante.
Thabé, Maurice Kamto en prison, est-ce que selon vous, leur participation est essentielle?
Nous ne sommes pas dans la logique de dire tout le monde doit être autour de la table. Ce n'est pas un dialogue inclusif national ouvert à tous les sujets. Celui dont on parle, pour lequel nous avons eu le Premier ministre, il s'agit essentiellement de la crise anglophone.
Le vice-président du SDF, Joshua Ossi, était joint à Yaoundé au Cameroun.
Jacques Aristide avec vous dans l'Amérique et vous tout à l'heure à 19h10. Gros plan sur le déclin des inscriptions d'étudiants internationaux dans les universités américaines. Quel impact sur ces universités? Les étudiants africains sont-ils parmi ceux les moins attirés par les États-Unis? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et en direct au 001 202 205 43 93.
Quelque 7 millions d'électeurs tunisiens se rendent aux urnes dimanche pour élire leur président après la mort de Béji Caïd Essebsi le 25 juillet dernier. 26 candidats s'affrontent lors de ce premier tour. L'instance en charge de l'organisation des élections met les dernières touches avant ce scrutin à l'issue incertaine. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Dans ce centre logistique de l'instance supérieure indépendante pour les élections, ISIE, les agents s'affairent autour du matériel électoral pour s'assurer que tout est fin prêt pour le scrutin de dimanche. Rida Missaoui est le directeur des opérations électorales.
Sur le territoire tunisien, nous avons 4564 centres de vote et 13 446 bureaux de vote. Chaque bureau de vote a une urne, donc c'est 13 446. Mais il y en a les stocks de sécurité un peu partout, donc c'est dans les 14 000.
Pour un pays qui a été victime d'attaques terroristes depuis quelques années, la question sécuritaire est au cœur de l'organisation de cette élection. Rida Missaoui de l'instance électorale.
Donc, pour la sécurité du matériel électoral, nous prenons toutes les dispositions nécessaires. Les dispositions en termes de sécurité, nous avons parlé de ça. C'est l'armée qui sécurise les convois et qui sécurise le dépôt central et les dépôts régionaux. Pour le mouvement des matériels électoraux, pour être sûr qu'il n'a pas été ouvert entre les dépôts ou bien entre les dépôts régionaux et les centres de vote. Nous utilisons la technique simple de sceller. Tout est scellé.
Le scrutin, d'abord fixé au 17 novembre, a été avancé au 15 septembre, donnant moins de temps à l'instance électorale qui devait former rapidement des milliers d'agents et s'assurer que le matériel électoral est déployé à temps sur tout le territoire. Rida Missaoui.
Nous n'avons pas des urnes à transporter avant le dépouillement, le comptage. Nous n'avons pas des centres de dépouillement où on verse toutes les urnes, on ne sait pas d'où viennent les autres bulletins. Nous n'avons pas. Tous ces trucs-là sont coupés par la loi, par la procédure. Donc nous sommes safe, quoi.
Dans les rues de Tunis, certains ont du mal à faire leur choix parmi les candidats.
Je ne suis pas convaincu par aucun d'entre eux. Ils ont tous des antécédents différents. Il est difficile de différencier. On verra qui va sortir du lot, mais la confiance ne se donne pas. Elle se mérite.
Le premier ministre Youssef Chahed et le magnat des médias Nabil Karoui sont parmi les candidats les plus en vue. L'homme d'affaires, arrêté pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, devra rester en prison après le rejet de son pourvoi en cassation.
Un sommet très attendu demain à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les dirigeants de la CEDEAO et ceux de la Mauritanie et du Tchad vont discuter de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. La force du G5 Sahel sera au cœur des échanges. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Jacob Yaratioba, spécialiste des questions de sécurité à l'université de Ouagadougou.
Je vois essentiellement deux ou trois choses qui peuvent aider à faire avancer non seulement la réflexion, mais la connaissance sur le phénomène. Le premier niveau d'élément peut-être qu'on pourrait attendre, c'est véritablement au niveau institutionnel. Imaginez une synergie agissante, intelligente des structures, faire une mutation du G5 Sahel vers peut-être quelque chose de plus grand, de plus important et de plus opérationnel. Parce qu'il y a ceux qui sont frappés de plein fouet par le phénomène et il y a ceux qui pensent qu'ils vont être aussi frappés par le même phénomène et qui s'en inquiètent.
Vous parlez des pays côtiers?
Oui, exactement. Comme le Bénin, le Ghana, en l'occurrence le Togo.
Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'on ouvre le G5 Sahel, par exemple au Bénin, à la Côte d'Ivoire ou même au-delà de la CEDEAO?
Oui.
au niveau institutionnel, il faut véritablement s'attendre à une mutation du G5 Sahel sur le plan institutionnel. Parce que si on reste dans ce schéma sera très vite dépassé et on sera surpris par l'évolution donc, du phénomène terroriste ou d'insécurité.
Pour revenir au cas spécifique du Burkina Faso, on a vu que cette dernière semaine, les forces de l'ordre n'arrivent pas à s'en sortir face aux assauts des terroristes.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on constate. Certains détachements militaires, certains postes sont fermés et certains sont en train de replier, laissant justement des populations ou encore des villages peut-être à leur propre sort. Et c'est une triste réalité. De toute façon, moi, je reste convaincu que s'ils sortent de cette réunion et qu'ils ne font pas quelque chose de différent, les populations vont continuer de dire « Ah, c'est toujours des sommets sans issue, des sommets qui n'accouchent de rien. » Donc, il faut faire l'effort cette fois-ci parce que la situation nous coince ici au Burkina, la question coince d'autres pays. Il faut faire l'effort d'une réflexion plus pointue qui donne des outils opérationnels de sorte à ce que d'ici les 3 mois à venir, qu'on sente une réalisation de quelque chose de très fort qui sorte certains pays justement de la cyclone, qui sorte certains pays de l'espace CDAO, donc de l'impasse sécuritaire et qui attire les investisseurs et qui donne encore la joie de vivre aux populations. S'ils sortent donc de ce sommet et ils se remettent encore dans les... Et il n'y a rien, les populations vont encore désenchanter. Et ça, il faut en tenir compte dans ce sommet-là pour en faire justement un sommet où des actions concrètes vont être posées, où on verra des choses sur les 3 mois à venir et qui donnent de l'espoir aux populations.
Jacob Yartioba était joint à Ouagadougou au Burkina Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le troisième débat démocrate a eu lieu hier soir à Houston, au Texas, ici aux États-Unis. Le favori Joe Biden a opté pour l'offensive, taclant ses principaux rivaux, et il s'est aussi défendu face aux attaques sur son âge. L'ancien vice-président a farouchement défendu ses positions centristes face à des candidats plus à gauche. Il a aussi revendiqué ses liens avec l'ex-président Barack Obama. Pour une analyse sur ce débat, Abdourahman Dia a joint ici à Washington l'analyste politique René Laïc.
Je voudrais dire qu'il y a eu deux gagnants selon moi. Le premier, c'est un peu l'aile modérée du parti démocrate qui jusque-là était relativement faible dans son expression au niveau des deux premiers débats, où les progressistes avaient vraiment eu la part belle. Donc je pense que les modérés ont un peu repris du poil de la bête dans le débat d'hier. Donc ça, c'est la première chose à dire. Les deuxièmes gagnants, je pourrais dire, ce sont des candidats un peu à la marge. Et c'est notamment Beto O'Rourke, le candidat texan, et Cory Booker, le candidat de New Jersey. Donc je pense que ces deux candidats ont fait une excellente prestation, notamment Beto lui-même.
Joe Biden, qui jusque-là, en tout cas, se défendait, est passé à l'offensive. Est-ce que c'est un changement de stratégie qui a porté ses fruits?
Il semblerait qu'il a paru en tout cas mieux préparé pour les deux premiers débats, notamment dans la première partie, je dirais la première heure et demie du débat. Il était énergétique, il était dynamique, il était très articulé, il était même un peu à l'offensive, comme vous dites. J'ai retrouvé le vieux Biden un peu hésitant, pas très clair.
Elizabeth Warren monte dans les sondages. Est-ce qu'elle a fait un bon boulot hier?
Oui, je pense que bon, elle a été égale à elle-même, je dirais. Elle n'a pas brillé comme elle avait brillé dans les deux premiers débats, parce qu'au fond, les conditions globales du débat lui ont permis. Le débat d'hier était un débat où, au fond, les trois principaux candidats sont restés sur une ligne assez... Il n'y a pas eu de surprise particulière. Mais donc, je pourrais dire que dans son cas, elle a été très solide, comme d'habitude, et je crois qu'elle va continuer à monter dans les sondages. Pour moi, cela ne fait aucun doute.
C'était l'analyste politique René Leïc et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïman. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. On se retrouve dans un instant pour un rappel des titres. À tout de suite.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.